Le dispositif de prise en charge du chômage partiel prolongé jusqu'en décembre, le gouvernement l'a confirmé ce matin. Actualité minière, Prony Resources fait le point sur l'usine du Sud, toujours à l'arrêt. De son côté, la SLN a reçu une nouvelle tranche de l'aide de l'État, mais son chiffre d'affaires a chuté de 56% au troisième trimestre. Le retour des paquebots de croisière est validé à Nouméa, le premier d'une capacité de 4000 places est attendu le 10 novembre. L'Azerbaïdjan dans le communautaire de députés européens, alors que le pouvoir accentue une répression tous azimuts, ils estiment que la tenue de la COP29 à Bakou est un scandale. Procédure assez rare à l'Assemblée nationale, la présidente Yael Braun-Pivet a exclu du Palais Bourbon un attaché parlementaire trop proche des mouvements palestiniens. Et puis en sport, nouvelle performance pour les Calédoniens au championnat de France de kitesurf. Antoine Olivier décroche son deuxième titre de champion de France espoir en freestyle. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui sera suivi par le magazine Transparence. Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Jean-François.
Votre invitée cette semaine sera Sonia Baquès.
Oui, c'est la présidente de la province sud des chefs de file des loyalistes qui sera ce midi l'invitée du magazine Transparence. Nous reviendrons avec elle bien sûr d'abord sur la situation budgétaire de la province sud plus de 5 mois après le déclenchement des émeutes et au lendemain du débat d'orientation budgétaire qui s'est tenu à la province. Nous reviendrons également plus largement sur l'actualité politique calédonienne avec notamment le report des élections provinciales, la visite du ministre des Outre-mer ou encore la prochaine mission de dialogue et de concertation. On se retrouve d'ici une petite demi-heure en compagnie de Sonia Baquès.
Et on vous retrouvera à 16h45 pour le club politique.
Au sommaire de ce club, le bilan de la visite de François-Noël Buffet, mais aussi la venue des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Nous parlerons également du débat sur le report des provinciales, que ce soit au Congrès ou au Sénat. Et puis nous évoquerons naturellement, là encore, la situation de la province sud. Et enfin, nous dirons un mot sur la polémique contre le collectif de Saint-Louis et Pierre Chanel Toutougoro, un club politique qui débute à 16h45 et qui est rediffusé le samedi matin à partir de 11h.
Le gouvernement a donc confirmé la prolongation du chômage partiel pour les mois de novembre et décembre. Le ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet, a annoncé le financement du chômage partiel pour 2 mois supplémentaires. Le gouvernement souhaite soutenir et faciliter les démarches des entreprises et les sociétés qui ont effectué des démarches de renouvellement pour les mois de septembre et octobre 2024 seront prolongées automatiquement sans demande complémentaire. Une bonne nouvelle pour Mimsy Delay, la présidente du MEDEF.
C'est une très bonne chose, ça n'était pas gagné. Nous avons beaucoup argumenté pour maintenir ce dispositif au moins jusqu'à fin décembre. Nous espérons sa prolongation jusqu'à mi-2025. Mais évidemment, ça permet de donner un bol d'air aux entreprises qui n'ont pas pu encore reprendre leur activité et étaient très soucieuses de maintenir leurs salariés en situation d'emploi dans leurs effectifs. Ça soutient l'économie et ça permet en fait d'attendre le lancement des chantiers de reconstruction et l'arrivée des indemnités d'assurance. Après, je note toutefois que les entreprises attendent, ne serait-ce que pour le mois d'octobre, les arrêtés de la direction du travail qui tardent à renouveler le dispositif et ça cause de grosses difficultés sur le paiement des salaires. Donc nous lançons un appel au service de la Nouvelle-Calédonie pour accélérer les procédures de délivrance de ces arrêtés parce que sans cela, eh bien, nous sommes en incapacité de savoir si le dispositif peut être actionné. Aujourd'hui, la balle est dans le camp du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et nous espérons des retours très rapides.
La prolongation du chômage partiel pour les mois de novembre et décembre, bien, mais peut mieux faire, estime Tony Dupré, le vice-président de la COGETRA.
Ça prouve que l'État ne s'engage pas réellement sur ce sujet. C'est bien, mais c'est largement insuffisant. On l'a dit à plusieurs reprises, il faut donner plus de visibilité aux entreprises. Sinon, elles licencient. Et elles licencient massivement. Donc, il faut à minima un engagement sur mi-2025. Si on pérennise le système, on l'a dit là aussi, s'il faut revoir la délibération. L'entreprise nous dit on a des difficultés avec des TESP en termes de procédure. Il y aurait du retard, des fois 2-3 mois. Là, il faut voir ce qui se passe. Ensuite, les critères d'éligibilité, s'il faut les revoir, parce que là aussi, il y a peut-être un effet d'aubaine qui s'installe pour certains, avec le côté confortable de la chose, on est prêt à en discuter. Mais d'une manière générale, globale, l'effort financier de l'État doit être à la hauteur des enjeux. Et là, c'est largement insuffisant.
Cette mesure de chômage partiel, rappelle le gouvernement, a pour vocation d'assurer le paiement des salaires, de maintenir les compétences et de soutenir les entreprises. Ce dispositif concerne près de 20 000 salariés en Nouvelle-Calédonie. Économie toujours, et dans un communiqué publié ce matin, le député Nicolas Metzdorf se félicite de l'adoption d'amendements qu'il avait déposés lors de l'examen du projet de loi de finances. L'objectif est d'encourager l'investissement pour relancer le territoire. Le premier amendement vise à augmenter le taux de réduction d'impôt pour les particuliers qui investissent dans les entreprises du territoire. Le deuxième porte sur l'ouverture du dispositif d'aide fiscale à la réhabilitation des bâtiments détruits. Le troisième est relatif à l'intégration de la Nouvelle-Calédonie dans la liste des territoires éligibles au taux de réduction d'impôts majoré actuellement en vigueur en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis et Futuna. Et puis l'actualité du nickel. Les premiers ressources communiquent et fait un point sur la situation depuis le 13 mai qui a marqué l'arrêt de l'usine du Sud et de son activité à Goro, Nicolas Legrand.
Oui, l'industriel affirme rechercher des solutions viables pour redémarrer ses opérations dans des conditions sécuritaires durables. Elle rappelle que la principale source de défi reste la réparation de la ligne électrique qui a été endommagée le 4 juin dernier à Saint-Louis. Enercal est actuellement en discussion avec les coutumiers pour organiser l'opération de remise en route en toute sécurité. À ce jour, aucune date n'a été actée. En attendant, Prony Ressources, Enercal et EEC ont travaillé à des solutions alternatives qui restent pour le moment au stade de l'étude. Prony affirme que le redémarrage de l'activité dépend de l'accès à l'électricité, mais aussi à la sécurisation de la circulation. En ce qui concerne enfin la recherche d'un repreneur, les discussions se poursuivent avec l'éventuel futur actionnaire.
D'autre part, l'État a versé une nouvelle tranche d'aide à la SLN. Paris a déboursé 20 millions d'euros, c'est-à-dire 2,4 milliards de francs. Le ministère de l'économie a confirmé ce versement conformément au plan de soutien décidé au début d'année.
Oui, Christelle Bory, la PDG d'Eramet, qui rappelle que l'usine fonctionne aux deux tiers de sa capacité, que des mines sont arrêtées et que des équipements ont été détruits. Elle rappelle aussi qu'Eramet ne finance plus du tout la SLN depuis l'accord intervenu avec l'État qui lui a versé quelque 240 millions d'euros au total depuis le début de l'année, soit 29 milliards de francs. Au troisième trimestre de l'année, la production minière de nickel de la SLN a atteint 0,7 million de tonnes, en baisse de 52% par rapport au troisième trimestre 2023. De juillet à septembre, les exportations de minerais de nickel de la SLN ont été quasi nulles et la production de ferro-nickel a reculé de 39%. Quant au chiffre d'affaires de la SLN, il a aussi chuté de 56% à 99 millions d'euros sur le trimestre.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici la question du jour. Comprenez-vous que la province sud soit contrainte d'envisager des coupes drastiques dans les aides sociales et dans les services publics pour élaborer son budget? Si vous le comprenez, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, vous êtes très partagé sur la proposition du gouvernement d'autoriser de nouveau l'importation des produits en matière plastique et notamment des barquettes. 50% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS se disent favorables à cette importation des produits en matière plastique. Ils sont aussi 50% à dire qu'ils y sont opposés. 11h38, une première pause dans ce journal. On verra dans un instant ce qui fait le reste de l'actualité en Calédonie, notamment le retour très attendu des paquebots de croisière, mais ce sera aussi une page consacrée à l'actualité dans la région.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La BNC fête ses 50 ans, alors jusqu'au 8 novembre, profitez des 50 jours anniversaire. Faites-vous plaisir avec notre crédit consommation à taux canon. À la BNC, notre histoire, c'est votre histoire. Plein d'autres surprises à découvrir sur notre site internet bnc.nc. Sous réserve d'acceptation de la Banque de Nouvelle-Calédonie, un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez votre capacité de remboursement avant de vous engager.
Opération hybride chez Toyota. Profitez de nos offres avec Toyota Nouméa, Toyota Kone et Toyota Lifu. La Toyota Yaris à partir de 33 900 francs par mois, entretien inclus. La Toyota Yaris Cross à partir de 39 900 francs par mois, entretien inclus. Le Toyota CHR à partir de 39 900 francs par mois, entretien inclus. La Toyota Corolla Cross à partir de 45 900 francs par mois, entretien inclus. Et le Toyota RAV4 à partir de 59 900 francs par mois, entretien inclus. Opération hybride, c'est aussi chez Toyota Occasion, avec des remises allant jusqu'à -500 000 francs. Toyota reste ouvert en continu de 7h30 à 17h. Alors passez nous voir, même à midi. Voir conditions en concession. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Le retour des bateaux de croisière actés à Nouméa. Après un premier voyage de reprise à Lifou vendredi dernier, c'est un navire d'une taille beaucoup plus importante qui accostera sur la Grande Terre le 10 novembre prochain, Charlotte Coulson.
4000 touristes pourraient débarquer sur les plages de Lanzbata dans à peine plus de deux semaines. En tout cas, c'est le nombre de passagers que peut transporter l'Ovation of the Seas, ce navire de la compagnie Royal Caribbean Cruise Line qui arrive le 10 novembre. Un retour décidé après la visite sur le territoire de plusieurs représentants des armateurs étrangers, RCC et Carnival. Julie Laronde, la directrice générale de Nouvelle-Calédonie Tourisme, est allée à leur rencontre.
Deux compagnies de croisière plus importantes, Carnival et Royal Caribbean Cruise, sont venues cette semaine, mercredi et jeudi, en visite à Nouméa, justement pour vérifier sur pièce en fait la situation à Nouméa. Ils voulaient vraiment se rendre compte de l'ambiance, de la situation, et ils voulaient rencontrer également les acteurs qui travaillent dans la croisière pour vérifier la faisabilité d'une reprise à Nouméa mi-novembre. Ils ont été rassurés. Tous les opérateurs avec lesquels ils travaillent sont en capacité de reprendre, mais c'est une première étape et on espère que le trafic international par les avions va reprendre progressivement. En tout cas, on y travaille. Une première bonne nouvelle, mais c'est pas encore suffisant.
Vous l'avez bien compris, cette reprise ne bénéficiera pas à tous les prestataires touristiques. Pour autant, les acteurs situés dans le Grand Nouméa se réjouissent du retour des croisiéristes. Fabrice Lecomte est l'un des gérants de la société Levi Transport. Après une perte d'exploitation de 98% depuis le 13 mai, ce sont près d'une trentaine de salariés qui vont enfin reprendre le travail. Fabrice Lecomte.
Pour nous, c'est une très bonne nouvelle que la Nouvelle-Calédonie soit de nouveau inscrite dans les escales. On sera prêt, toutes les équipes seront mobilisées. Alors les services touristiques qui sont mis en valeur, ce sont premièrement les bus qui vont en transfert toutes les 20 minutes en direction des plages parce qu'elles sont préservées. Donc ce qui va permettre de ramener un peu des Australiens sur Lanzbata et la baie des Citrons. Redonner aussi du chiffre d'affaires pour les restaurateurs, les bars. Deuxième, ce sont les petits trains touristiques qui seront de présent. Nous avons aussi les tours guidés. Nouméa est prêt, on est heureux de les recevoir. On espère que la météo sera de la partie et l'équipe de Levi sera présente.
Notez toutefois que le programme de transport de la société Levi a dû être adapté. Les bus de touristes qui desservaient autrefois l'église de la Conception au Mont d'Or ou encore les Nakama à la Ducos ne s'y rendront plus. Et puis pour espérer une relance plus complète du secteur touristique, il faut attendre la reprise des lignes aériennes. D'ici là, ce sont déjà trois navires qui accosteront à Nouméa au mois de novembre.
Le meilleur du savoir-faire calédonien réuni en un seul et même endroit, c'est le concept de cette 33e édition du Salon Batexpo, qui a revisité sa formule pour proposer une plus grande diversité d'exposants, Léana Colombo.
Et oui, cette année, le salon Batexpo devient le salon Batexpo et plus. L'événement a beau être un rendez-vous incontournable pour les acteurs du bâtiment et de l'artisanat, la crise économique se fait tout de même fortement ressentir. Voilà pourquoi la Chambre des métiers et de l'artisanat a fait le choix cette année de proposer une gamme élargie d'artisans, englobant non seulement le bâtiment, mais aussi l'artisanat d'art et l'alimentaire, une nouveauté qui semble plaire aux visiteurs.
Moi, je suis venu pour refaire mon jardin, là, et voilà, je regarde un peu ce qu'il y a, quoi.
En les temps qui courent, si ça peut les aider, moi, ça m'arrange bien, moi, de voir de tout. Alors, on est un peu tenté, quoi, c'est comme un supermarché, quoi, hein. c'est toujours pareil. On va pour acheter une boîte de carottes et on revient avec 10 000 francs de course, hein.
C'est une très bonne idée d'avoir les deux en même temps. Oui. J'étais intéressée par les toiles en brière, donc au départ c'était pour ça, mais c'était pour tout voir en même temps. Hein.
Je trouve ça très bien, il y en a pour tous les goûts et pour tout le monde.
Un choix lieu utile à la gourmandise.
Du côté des exposants, de nouvelles solutions ont également émergé pour s'adapter au mieux à la situation. Certaines entreprises ont fait le choix de partager un stand, à l'image de Bruno, gérant de Garden Kitchen.
On a trouvé des partenaires avec qui on a mutualisé les coûts et l'idée c'était de faire un point commun avec une large gamme de produits qui part de l'équipement de la maison jusqu'à la cuisine intérieure et du coup aussi extérieure. Ça nous permet aussi d'élargir notre capacité à avoir du client. Chacun amène sa clientèle et on a une exposition plus forte. Et puis au-delà de ça, en fait, on s'aperçoit que bien souvent les gens ne savent pas forcément tout faire. C'est normal, c'est pas leur métier. Ils ont un besoin, donc on leur amène du conseil, du service et puis des contacts avec des opérateurs qui savent faire sur leurs besoins.
Le salon Batexpo et plus, c'est jusqu'à dimanche midi à la Maison des Artisans de Nouméa. Plus de 140 exposants seront présents. L'entrée est libre et gratuite.
À Radio Rythme Bleu, il est 11h45.
La France accueille de nouveaux citoyens français. Le commissaire délégué en province Sud, Grégory Lecru, a remis hier soir des décrets de naturalisation à 51 personnes, dont 9 enfants. D'origine espagnole, togolaise, finlandaise ou encore canadienne, certains d'entre eux vivent en Calédonie depuis plus d'une dizaine d'années. Hier soir, ils sont donc entrés dans la citoyenneté française avec beaucoup d'émotion.
Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, arrivé.
Natalia Prado, espagnole. C'est un peu le reflet de mon parcours depuis que je suis toute petite, vu que j'ai fait mes études en Espagne, j'étais dans un établissement français. Donc c'est un honneur et un peu le reflet de toute ma vie depuis que je suis toute petite.
Bovi, amen.
Vous êtes de quelle origine?
Togo. C'est déjà c'est une joie, c'est une fierté aussi. Ça permettra de contribuer par un savoir-faire et participer à cette République et à la France.
Suzanne Develine, canadienne. Un immense privilège, une grande fierté, c'est appartenir à la famille française. Ça fait 12 ans que je suis en Nouvelle-Calédonie et ça fait un peu plus d'un an que le dossier a été déposé. Donc c'est vraiment un privilège. Franchement, c'est des belles valeurs que je suis contente d'épouser.
Vianney Prudhomme, c'était un défi que je m'étais lancé depuis le temps que je suis ici. Ça a été le parcours du combattant parce que c'est vraiment pas facile. Là. En plus, je fais venir plein de documents du Canada. Puis, oh là là, la galère. C'est beaucoup de fierté.
Isabella, finlandaise. Je suis très heureuse d'avoir pu devenir française aujourd'hui. Ça faisait un moment que j'attendais de pouvoir le devenir, donc je suis très heureuse.
Et grâce au document qui leur a été remis hier soir, ils peuvent maintenant faire leur demande de carte d'identité ou de passeport français. Ils peuvent aussi voter en France. Une mission du Forum des îles du Pacifique en Calédonie à partir de dimanche soir et pour 2 jours. Elle avait été demandée après le 13 mai. Il a fallu un peu de temps pour que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et la France, qui avaient rapidement donné son accord de principe, s'accordent sur cette mission et son périmètre, que nous a rappelé Véronique Roger-Lacan, l'ambassadrice de France dans le Pacifique, qui était notre invitée ce matin à 7h30.
Comme prévu dans les termes de référence, l'objectif de cette mission, c'est de l'information, donc de la récolte d'informations. Et donc, pour cette récolte d'informations, comme prévu dans les termes de référence agréés entre le gouvernement Nouvelle-Calédonie, l'État et le Forum des îles du Pacifique, ils feront des visites de terrain, ils iront voir des représentants de l'État, des représentants du gouvernement Nouvelle-Calédonie, des représentants de tous les groupes politiques, autant loyalistes qu'indépendantistes, des représentants du secteur économique, secteur médical, secteur de l'éducation, secteur religieux.
Et cette mission comprend les premiers ministres des Tonga, des îles Cook et de Fidji. Le premier ministre des Salomon sera lui représenté par son ministre des Affaires étrangères. Toujours dans la région, la population de Wallis et Futuna a diminué de 25% depuis 2003. C'est ce qu'indique l'INSEE. L'an dernier, l'archipel voisin comptait 11 151 habitants. La baisse en 20 ans a été moins massive à Wallis, moins 19,7% qu'à Futuna, moins 37,1%. L'immigration massive des jeunes combinée à une baisse de la natalité explique cette baisse de la population, explique l'INSEE, qui constate aussi que la population de Wallis et Futuna vieillit et se féminise. Faute de développement économique et d'établissement d'études supérieures, de nombreux jeunes quittent l'archipel vers la métropole ou la Nouvelle-Calédonie. 22 520 Wallisiens et Futuniens vivent en Calédonie, le double de la population qui reste sur place. Et puis toujours dans la région, petite tension en ouverture du forum des États du Commonwealth qui s'est ouvert à Apia. Certains pays ont interpellé l'Australie, le Canada et le Royaume-Uni pour leur demander de réduire leurs exportations de combustibles fossiles. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Certains États insulaires, dont le Tuvalu, le Vanuatu, les Fidji et le Samoa, ont déclaré que le réchauffement climatique et la montée du niveau des océans présentaient une menace existentielle pour plusieurs nations insulaires du Pacifique Sud. Ils ont notamment dénoncé les exportations de combustibles fossiles de l'Australie, du Canada et du Royaume-Uni, au motif que ces trois pays, je cite, sont responsables de plus de 60% des émissions générées par l'extraction de ces combustibles fossiles, bien qu'ils ne représentent que 6% de la population totale du Commonwealth. Ils ont donc réclamé l'élimination progressive de leurs exportations de combustibles fossiles. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 11h50, l'heure de marquer une nouvelle pause dans ce journal avant de voir l'actualité en métropole et dans le monde. Nous verrons que l'Azerbaïdjan est dans le collimateur des députés européens.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Votre restaurant La Braise vous accueille du mardi au samedi au 7 route de Lanzvata. Spécialiste dans la cuisson au feu de bois et à la braise, venez partager un moment dans une ambiance chaleureuse et familiale avec un espace dédié aux enfants. La Braise, votre restaurant de viande à Nouméa. Réservez vite au 450 850.
Des galeries en terre sur vos murs, ce sont des termites de sol. Stop! Ne touchez à rien, on sait Formula 4D. Plus d'infos sur formula4d.com. À vos côtés depuis 40 ans.
Chris Optique Beretti, agréé tiers payant mutuel, aide médicale, carte senior, paiement en 3 fois, votre deuxième paire offerte, test de la vue, accueil, écoute, conseil. Chris Optique Beretti, 60 avenue de la Victoire. La confiance vous va si bien.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
La suite d'Infomag, on retrouve Jean-François Baudin.
La suite avec l'Azerbaïdjan qui est dans le viseur des eurodéputés du 11 au 22 novembre. La capitale, Bakou, doit accueillir la COP29. Mais les eurodéputés estiment que cela pose de nombreux problèmes alors que le régime azerbaïdjanais exerce une répression contre toute forme de contestation de la part de militants, de dirigeants, de l'opposition ou encore de journalistes. Le Parlement demande notamment à Bakou de cesser toute forme de répression sur le territoire national et à l'étranger, dénonçant de ce point de vue les interventions actives de l'Azerbaïdjan en Nouvelle-Calédonie sous couvert d'anticolonialisme. Le régime d'Aliyev a mené des manœuvres informationnelles lors de violences en mai visant à déstabiliser Paris. Bakou est aussi accusé d'avoir apporté son soutien logistique à la CCAT. Dans ce contexte, l'organisation de la COP29 à Bakou est un scandale, estime l'eurodéputé François-Xavier Bellamy.
Dans 3 semaines, la COP29 commencera à Bakou, chez Ilham Aliyev. Aliyev, bourreau du peuple arménien. Monsieur Aliyev, si vous croyez tant à votre propre pouvoir, pourquoi tenter de faire taire les voix qui vous contestent? Si vous croyez tant à votre légitimité, pourquoi user de la violence? Il est temps, chers amis, que l'Europe sorte enfin de son inconscience. Mais non, la COP29 n'est pas une opportunité. La COP29 est un scandale, une honte qui salira l'histoire même de l'engagement pour la protection de l'environnement dans un pays auquel nous achetons le gaz qui fait, là encore, notre lâcheté collective. Il est temps de dénoncer aujourd'hui l'accord gazier qui lie la Commission européenne avec l'Azerbaïdjan, de prendre les sanctions qui s'imposent contre M. Aliyev et son régime et de dire enfin que la démocratie et le cœur battant de l'Europe sont du côté du peuple arménien qui se battent pour la liberté, pour la paix, pour la sécurité dans cette région du Caucase comme dans le monde entier.
Et la résolution déposée à cet effet a été adoptée par une large majorité, 450 voix pour, 31 contre et 89 abstentions. Cette question s'est aussi invitée au Sénat lorsque Valérie Boyer, sénatrice LR, a posé une question au ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, sur la participation de la France à cette COP29 lors de son audition par la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat.
Je pense surtout à la France. À la France, comment accepter la déstabilisation de notre pays en Nouvelle-Calédonie, dans les dom-toms, auprès de certains médias, les campagnes de propagande permanentes à coût de gaz et de dollars du gaz, la déstabilisation qui coûte très cher à la France à tous les niveaux, puisque en Nouvelle-Calédonie, les dégâts sont évalués à peu près à 4 milliards d'euros, au moment où justement le monde se déplace dans le Pacifique et où la place de la France est menacée, alors même que les États-Unis regardent avec une attention toute particulière cette zone du monde.
La France participera bien à la COP29, a répondu Jean-Noël Barrot, mais la délégation sera réduite à son maximum.
L'Azerbaïdjan a fait le choix de provoquer une crise sans précédent dans nos relations. Il poursuit ses agissements hostiles à notre encontre sur le plan informationnel. Viginum a documenté le 17 mai des manœuvres informationnelles d'origine azerbaïdjanaise à notre encontre en Nouvelle-Calédonie. Cette campagne est d'autant plus préoccupante que le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer avait en outre à l'époque relevé les liens que certains indépendantistes en Nouvelle-Calédonie entretenaient avec l'Azerbaïdjan. M'interroger sur la COP29... Je suis, moi aussi, un peu sceptique. Ceci étant dit, le principe des COP doit être préservé. C'est un outil extraordinaire pour faire avancer les sujets climatiques et les sujets de biodiversité. C'est pour ça qu'on se projette très volontiers sur la COP 2030 de Belém. Et quant à la présence française, elle sera réduite au minimum. Et s'il est possible qu'Agnès Pannier-Runacher s'y rende, elle s'y rendra véritablement pour les conclusions.
Et la COP 29 se déroulera du 11 au 22 novembre. Ce sera donc à Bakou, en Azerbaïdjan. En métropole, Bruno Retailleau veut coûte que coûte sa loi immigration. Le ministre de l'Intérieur l'a réaffirmé et il a même dévoilé quelques détails sur ses intentions. Maïalène Trémollet pour Europe 1.
L'objectif de Bruno Retailleau est simple, rendre la France moins attractive pour les personnes immigrées. Le locataire de Beauvau propose plusieurs mesures, rétablir le délit de séjour irrégulier, la fin de l'automaticité du droit du sol ou encore la transformation de l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence. Le ministre de l'Intérieur plaide aussi pour l'allongement des délais de détention des étrangers clandestins jugés dangereux de 90 à 120 jours à la suite du meurtre de la jeune Philippine tuée par un étranger sous OQTF. Autre nouveauté, la nomination d'un missi dominici pour négocier des accords bilatéraux avec des pays tiers ou des pays de transit. Bruno Retailleau qui anticipe des réserves venues de l'aile gauche de la majorité. « Je ne proposerai rien qui n'ait pas déjà été voté », explique-t-il. En clair, le ministre souhaite reprendre et durcir légèrement le projet de loi voté en 2024 en y ajoutant les mesures censurées par le Conseil constitutionnel, des mesures qui avaient donc été défendues par le camp présidentiel.
C'est une procédure très rare à l'Assemblée nationale. La présidente Yaël Braun-Pivet a exclu du Palais Bourbon un attaché parlementaire. Il s'agit de Richie Thibault, attaché de la députée LFI Ercilia Soudet. Les policiers sont des enfants de Pétain, avait écrit Richie Thibault sur les réseaux sociaux, et le ministre de l'Intérieur avait porté plainte à son encontre pour injures publiques. C'est aussi lui qui avait déclaré que le seul chemin dans les rues de Paris, c'est l'intifada. Yaël Braun-Pivet estime qu'il est devenu une menace, notamment pour sa proximité avec les mouvements palestiniens, et l'a donc exclu. En attendant, les députés poursuivent l'examen du projet du budget. Il reste encore plus de 2000 amendements, même si les groupes insoumis et macronistes ont retiré une partie de leurs amendements. Le premier vote solennel sur ce texte devrait avoir lieu mardi prochain au plus tôt. 11h56, dans un instant l'actualité sportive, avant de retrouver le magazine Transparence.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Découvrez le panuzzo, le sandwich italien par excellence. Du pain artisanal croustillant, garni de charcuterie italienne, fromage fondant et légumes frais. Une explosion de saveurs. Le panuzzo, l'Italie dans un sandwich. Chez Etna Pizza, 89 route de Lanz Vata, de 11h à 14h. Téléphone 70 00 60.
Bénéficiez de nos offres chez Toyota jusqu'au 30 novembre. Économisez jusqu'à 34% sur l'achat de votre Toyota. Le nouveau Toyota Hilux simple cabine à partir de 2 295 000 francs. 2 295 000 francs. Le Toyota Hilux King Cab à partir de 2 495 000 francs. 2 495 000 francs. Le Toyota Land Cruiser à partir de 3 395 000 francs. 3 395 000 francs. Et le Toyota Yas à partir de 2 395 000 francs. 2 395 000 francs. Alors n'attendez plus et profitez de cette offre tant qu'il est encore temps. Jusqu'au 30 novembre. Toyota reste ouvert en continu de 7h30 à 17h. Alors passez nous voir, même à midi, voire conditions en concession. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Jusqu'au 15 novembre, gagnez un séjour de rêve à l'hôtel Koulnoué Village. Logez 5 nuits en bungalow premium avec vue mer, petit déjeuner et buffet pour deux personnes. Profitez de la mer, de la piscine ainsi que de nombreuses activités sur place. Un cadeau d'une valeur de 136 000 francs. Pour jouer, c'est facile. Envoyez maintenant chance au 40-20. L'hôtel Koulnoué Village vous accueille toute l'année dans un cadre à couper le souffle en face de la poule de Yengen. Toutes les actus sur le Facebook de l'hôtel. Alors pour décompresser, envoyez chance au 40-20. Tirage au sort vendredi 15 novembre à 14h. 371 francs par SMS. Sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
Besoin de chaussures ou de vêtements de sport? Pensez à votre magasin Ozone Sport situé au centre-ville de Nouméa. Venez découvrir les plus grandes marques de sport telles que Nike, Adidas, Skechers et plein d'autres. Ouvert en continu du mardi au samedi de 9h à 17h30. Facebook Ozone Sport.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite d'InfoMag avec le sport.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Le sport avec du football et on jouait à nouveau sur les pelouses européennes ce matin. Deux clubs étaient engagés en Ligue Europa, deux clubs français. Ça s'est plutôt mal passé, Nicolas.
Oui, tout d'abord, cette nuit, Nice a perdu à Ferencváros 1-0. Les Aiglons n'ont pas réussi à rentrer dans le match en Hongrie. Nice n'y arrive toujours pas dans cette compétition et pointe à la 32e place du classement sur 36 équipes après 3 journées. Et puis à domicile, Lyon a perdu 1-0, là aussi, après avoir pourtant dominé toute la rencontre face au Beşiktaş. La première défaite de l'OL cette saison dans la compétition européenne. Les Lyonnais qui ont manqué de réalisme, tandis que les Turcs, eux, ont multiplié les contres pour trouver la solution. Une mauvaise opération pour Lyon qui est dixième.
Les Français plus en réussite en tennis sur l'ATP 500 de Bâle.
Oui, les deux Français engagés cette nuit se sont qualifiés pour les quarts de finale. Au deuxième tour, Arthur Fils a battu l'Espagnol Pedro Martinez Portero 7-5, 6-3. En quart de finale, Arthur Fils sera opposé au grec Stefanos Tsitsipas. Quant à Giovanni Mpechipeikar, il s'est défait du Canadien Félix Auger-Aliassime 6-1, 7-6. Et en quart, il retrouvera un autre Canadien puisqu'il jouera contre Denis Chapovalov.
Côté calédonien, Antoine Olivier remporte son deuxième titre de champion de France espoir en kitesurf freestyle. À Le Cat, dans le sud de la métropole, le Calédonien a largement dominé ses adversaires dans sa catégorie d'âge. Écoutez sa réaction juste après avoir remporté son titre.
Ça y est, je viens tout juste de sortir de l'eau. C'est bon, champion de France. Ça fait super plaisir. Conditions, elles étaient franchement vraiment compliquées parce que voilà, il n'y avait pas beaucoup de vent. C'était un peu irrégulier. Et je suis très content. Ça fait plaisir. Deuxième titre de champion de France. Donc, ça fait plaisir. Et voilà.
Antoine Olivier, qui avait déjà été sacré vice-champion du monde 2024 à Tarifa, en Espagne, c'était en septembre dernier. Une autre Calédonienne est engagée dans cette compétition. Il s'agit de Phoebe Rocher, qui a de son côté décroché un troisième titre de championne de France junior en kitesurf freestyle. Elle tentera également de remporter un trophée dans la compétition chez les seniors. À suivre, c'est donc à Le Cat.